Le sujet, c'est la vie a des hauts. Je reviens à ce que Michel a partagé tantôt. Hein. La vie a des hauts et a des bas. Il n'est pas bon de vous dire, hein, vous le savez tous. Hein. Ces gens-là sont heureux, là. Ils ont les mains en l'air, sont en haut de la montagne. Waouh! Mais mieux qu'ils se mettent à descendre. Hein. Pas sûr que tout le monde va crier de même. On va remettre ça dans les mains de Dieu. Je te remercie, Seigneur, pour tout ce que tu fais pour chacun de nous. Les bénédictions, Seigneur, les épreuves aussi t'envoient. On ne sait qu'avec Adam et Ève, le péché est entré dans le monde et on vit toutes sortes de situations. Fait qu'on te remercie, Seigneur, parce que tu es toujours là, prêt à nous aider en toutes circonstances, à nous bénir malgré les épreuves. Éclaire-moi, Seigneur, dirige l'Assemblée, que chacun de nous, on puisse recueillir, comme tous ces arbres ce matin qui recueillaient tes bénédictions. Ouvre nos cœurs par ton esprit qu'on comprenne qu'est-ce que tu veux nous dire. Merci. Amen. Ecclésiaste, chapitre 3, verset 1 à 3. Ça me fait drôle, il me semble que j'avais l'habitude de tenir le micro. Je ne sais plus d'où mettre les mains. Là. On m'habitue. Ecclésiaste 3, 1 à 3. Il y a un temps pour tout. Un temps pour toutes choses sous les cieux. Un temps pour naître, un temps pour mourir. Un temps pour planter, et un temps pour arracher ce qui a été planté. Un temps pour tuer, et un temps pour guérir. Un temps pour abattre, et un temps pour bâtir. La vie, c'est rarement un beau fleuve tranquille. C'est rare, hein? C'est rare que la vie, c'est comme un beau fleuve qui est tranquille. La parole de Dieu nous dit que le chemin qui mène à la vie, il est resserré. Donc, il va y avoir des moments qu'on va se sentir serré. Ça n'ira pas toujours bien. La parole de Dieu nous dit qu'on va avoir des difficultés, on va avoir des efforts. Le Seigneur nous a avertis, il nous a mis en garde de ces choses-là. La vie a des hauts et a des bas. C'est comme ça. C'est comme ça que ça arrive. À la naissance d'un enfant, on est tous contents. Hein, on est joyeux, un petit bébé arrive, on fête ça, hein, né, voir, puis le papa et la maman sont heureux, et on va être papy, on va être mamie. Hein, tout le monde, on est tous heureux. Puis, en voyant l'un de nos parents, ou notre enfant, ou nos amis qui nous quittaient, bien là, il arrive de la tristesse. C'est comme ça dans la vie. Elle ne vous apprend rien. Il y a des hauts, puis il y a des bas. Hein? Salomon, l'homme qui avait reçu beaucoup de sagesse, il comprenait que même s'il y a des bonnes choses dans la vie, et merci Seigneur, parce qu'il y en a de beaucoup, 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 on peut le louer tous les jours, on ne peut pas échapper aux mauvaises choses. Il y a des moments de réjouissance, puis il va y avoir des moments de tristesse et de deuil. Salomon nous a dit, on voit ça à travers ses Écritures, les épreuves sont inévitables. Est-ce qu'il y en a qui n'ont jamais eu d'épreuves? Levez donc la main. On a tous eu des épreuves. Mais Dieu est présent. Dieu est toujours présent. C'est ça, pour se rappeler, Dieu est toujours présent à nos côtés. Ça, c'est même pour l'enfant de Dieu. On n'est pas exempt de ça. La vie peut ressembler à des montagnes russes aussi pour chacun de nous. Il y a des hauts et il y a des bas. Mais Seigneur, pour nous orienter, on n'est pas tout seul. Il nous a donné l'Esprit Saint. L'Esprit est là. Il nous éclaire. Il nous montre la direction à prendre. Il s'agit de l'écouter et ça va nous aider beaucoup dans les épreuves. Quand tout va bien, on a vu, on peut se sentir heureux en haut de la montagne. Là, amène-en des projets. Hein? On a tellement de projets. Même il y avait une annonce à tout ça. Hein? Amenez-en des projets. On est heureux, on a toutes sortes d'affaires à penser, on travaille, ça va bien, j'ai la santé, j'ai un bon travail, amenez-en des projets. Puis, en peu de temps, on peut se retrouver dans le fond de la vallée avec plein de problèmes. Là, on n'a plus de projets. Là, ça nous dit plus, tu as mal à la tête. Cette semaine, j'étais étourdi, j'avais des vertiges, n'avait plus de projet. Plus de projet. Tu sais, c'est comme ça. Des jours, tu es prêt à tout faire, mais le lendemain, ben, tu peux être écrasé. Ça ne te dit plus de rien faire. Même si ce n'est pas agréable, Dieu nous prépare pour affronter d'autres obstacles qui vont venir. Parce que le Seigneur sait qu'on va en avoir toute notre vie. Vous savez, vous apprenez rien là-dessus non plus. Et les vents forts, ça aide les arbres à s'enraciner. S'il n'y avait pas de vent, les arbres ne seraient pas des racines comme ça. C'est le vent qui permet aux arbres d'élonger leurs racines pour se stabiliser. Et nous autres aussi, les épreuves nous permettent de s'enraciner dans la parole de Dieu, qu'on ne soit pas ébranlé à toutes sortes de vents de doctrine, de toutes sortes de choses qui peuvent nous arriver. Dans l'épreuve, Dieu nous fait acquérir de la sagesse. Est-ce qu'on en a besoin? Notre une foi plus forte aussi. On a besoin d'avoir une foi qui grandit. Il nous aide aussi à avoir de la persévérance. Dieu a toujours un but quand il permet des épreuves dans notre vie. Dieu s'est écrit qu'il y a des projets de paix et non de malheur. Dieu ne veut pas notre malheur. Il sait qu'on va avoir des épreuves, mais dans ces épreuves-là, bien, il va nous aider à être traversé. On connaît la vie de Joseph, plein de gens de même. Hein? Dieu il nous aide dans ce temps-là. Quelqu'un a parlé justement des montagnes russes que je vous ai montré tantôt. Là. Quelqu'un a dit, la vie est comme une montagne russe. Il y a des bas, il y a des hauts, il y a des bas. Mais regardez ce qu'il dit. Mais c'est toi qui décides si tu cries et si tu te décourages ou que tu profites du voyage. Parce que même dans les épreuves, on peut profiter de ces épreuves-là pour nous faire grandir dans la foi. Est-ce qu'on va crier ou on va dire, Seigneur, qu'est-ce que tu as à m'instruire? Qu'est-ce que tu veux me montrer à travers ça? Et puis on peut ressortir plus fort ou on peut ressortir abattu complètement à terre. C'est nous autres qui décident dans les épreuves. Comment on va ressortir de là? Pas toujours facile, c'est sûr. Pas toujours facile. La Bible contient de nombreux exemples d'hommes de Dieu qui ont vécu des hauts et des bas. C'est plein. Tout le monde, presque. Mais dans Hébreux 10, 23, on ne l'a pas mis au tableau, là, Dieu nous dit de prendre garde, toujours prendre garde, de garder notre espérance en Dieu. Toujours garder notre espérance sur Dieu. Sans ça, on risque de se décourager. Par le prophète Élie, Dieu a accompli de nombreux miracles. Il fut l'une des figures les plus marquantes de l'histoire d'Israël, avec Abraham, Moïse et David. Élie, c'est un des plus importants, on peut dire, dans l'histoire d'Israël. Même qu'il est apparu à côté de Moïse, lorsque Jésus est apparu, vous savez, sur la montagne, était transfiguré, là, il était là, Élie. Il était là, Élie. Un des deux seuls hommes, on peut dire au monde, qui n'a jamais vécu la mort. Hein? Et aussi, il est apparu en même temps. C'est rare qu'on voit des gens qui sont revenus du ciel et qui sont apparus sur terre. C'est un homme important. L'Éternel lui a confié un ministère de s'opposer au mauvais roi Achab et à sa femme. Vous rappelez-vous comment s'appelait cette petite madame?
Jézabel.
Elle était belle, hein? Jézabel. Mais était, ouh! Hein? Oh, je ne sais pas, je ne l'ai jamais vu. Moi, j'ai vu ça de même. Elle s'appelait Jézabel. Dieu lui a confié ce ministère-là de s'opposer à ce couple-là, à ce roi-là, à cette reine-là, d'ouvrir la voie à un réveil spirituel dans le pays. Le pays était rendu pas mal loin, loin de Dieu. C'est là que nous allons voir que dans la vie d'un enfant de Dieu, il peut y avoir des victoires, il peut aussi y avoir de grandes craintes. On va regarder la vie d'Élie un peu, comment que sa vie était, puis à un moment donné, est-ce que ça a changé dans sa vie? Est-ce qu'il y a eu des craintes? On va lire 1 Roi 17, verset 1. 1 Roi 17, 1. Élie le Tishbite, l'un des habitants de Galaad, dit à Achab, « L'Éternel est vivant, le Dieu d'Israël, dont je suis le serviteur. Il n'y aura ces années ici, il ne dit pas combien d'années, là, ni rosée, ni pluie, sinon à ma parole. » Vous pensez, Élie ose confronter Achab, le pire roi qui avait vécu jusqu'à date. Il a fait pire que tous les autres rois. On pourrait lire ça, si vous voulez, dans 1 Roi 16-30. Il dit à Élie, ça va être la sécheresse, hein, mon petit gars. Il n'a pas dit ça de même, mais moi, il dit ça même pas. Il dit, ça va être la sécheresse. Il s'était détourné de Dieu, il a amené le peuple à ses moyens aussi. Il dit, ça va être la sécheresse dans le pays. C'est, mettons-nous à la place d'Élie, est-ce qu'on aurait eu peur un petit peu dans nos culottes, on dirait, à aller affronter un roi de même? C'est pas le petit ministère, c'est pas une petite demande que Dieu lui demande. Le peuple s'était détourné de Dieu pour se tourner vers Baal. Puis Achab qui avait introduit un culte à Baal. Ça, Baal, là, il était vu comme le dieu de la fertilité, le dieu de la pluie. Et oui, il dit qu'il n'y aura plus de pluie. Autrement dit, ton dieu, là, ça n'allait pas bien. Ça n'allait pas bien, hein? Ça n'allait pas bien. Dieu voulait leur démontrer que Baal était un faux dieu, qui n'était pas le maître de la nature. Et il s'est servi de Élie pour aller les avertir. Par Élie, il leur a dit qu'il n'y aurait plus de pluie pour une période indéterminée. C'était la repentance du peuple qui allait déterminer la durée de l'épreuve. C'est selon le temps qu'il allait prendre pour qu'il revienne à l'Éternel. Sinon, il n'y aura pas de pluie. Mais après 3 ans et demi de sécheresse, comment vous pensez que la terre était après 3 ans et demi de sécheresse? Je parlais avec, je pense, c'était à Léon, quelqu'un tantôt, merci Seigneur pour l'appui. Ma pelouse, à plusieurs endroits, c'était rouge, c'était rendu rouge. Merci pour l'appui. Il ne faisait pas 3 ans et demi qu'on n'avait pas eu, là. Comment vous pensez que c'était en Israël après 3 ans et demi de pas de pluie? Mais le peuple s'était toujours pas repenti. Toujours pas repenti. Il allait toujours encore vers Baal, le dieu de la nature, qui lui qui envoyait la pluie. Mais il n'y avait rien. Pas de pluie. En 3 ans et demi. Toujours une sécheresse. Et on le courait, hein? Il dit au peuple, jusqu'à quand clocherez-vous des deux côtés? Oui, 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 je veux vous montrer que Élie était en haut de la montagne. Un homme rempli de foi. Un homme qui n'avait pas peur de rien. Élie dit, il va dire au peuple, jusqu'à temps, allez-vous clocher des deux côtés. Si l'Éternel est Dieu, allez auprès de lui. Si c'est Baal, ben allez auprès de lui. Vous pouvez lire ça dans 1 Roi 18, 21. Il dit au peuple, en fin de compte, choisissez. C'est qui que vous voulez servir? Baal, un faux dieu, ou voulez-vous servir l'Éternel? Mais le peuple répondit rien. Ils n'ont pas dit un mot. Ils n'ont pas dit un mot. Alors Élie lança un défi au prophète de Baal. Plein rempli de foi, Élie fonce. Hein? Il propose un défi qui établirait quel était le vrai Dieu. 450 prophètes de Baal et 400 prophètes d'Astarté répondirent à son appel. Autrement dit, 850 hommes, des prêtres de ce Dieu-là, se réunissent aux côtés de Élie pour démontrer que leur Dieu, c'est le vrai Dieu. Élie tout seul contre 850 hommes et le peuple aussi qui adorait Baal. Élie, à ce qu'il avait peur, il marchait vraiment les yeux sur le Seigneur. Mettons-nous à sa place. Ça fait du monde, 850 personnes, ça. Hein? 2 taureaux devaient être sacrifiés et posés sur le bois. Élie allait préparer son taureau, le mettre sur le bois, sur les roches, et les autres aussi allaient faire ça. Élie dit, le Dieu qui répondra par le feu, en consumant le sacrifice, sera reconnu comme le vrai Dieu. Et le peuple répondit, c'est bien, c'est bien. Ça va être comme ça qu'on va savoir c'est qui est le vrai Dieu. Les prophètes de Baal se mirent à invoquer leur Dieu. du matin jusqu'à midi. Ça, vous pourrez tout lire ça, parce que ça serait trop long de vous donner les versets. On sortirait peut-être bien l'après-midi assez tard. Mais vous pourrez tout lire ça. C'est tout une, vraiment une belle histoire. Une histoire vraie. Du matin jusqu'à midi, les prophètes, 850 hommes qui sont là, écrivent « Baal, réponds-nous. Baal, réponds-nous. » Vous pourrez lire ça dans la parole de Dieu. Ils sont tous là, écrivent « Baal, réponds-nous. » Du matin jusqu'à midi, devant le peuple d'Israël et devant le roi Achab. Baal, et ça devait faire un tout, un prière. Ça devait, je ne sais pas s'il y avait de la musique, je ne sais pas si je pense quelqu'un d'autre jouait dans un nom. Je ne sais pas s'il y avait un musicien, ça devait faire vraiment drôle. Mais aucune réponse, aucune réponse. Ils ont crié toute l'après-midi, imploré, mais aucune réponse. 1 roi 18, 27 et 28. On voit qu'est-ce qui s'est passé. Il est un petit peu moqueur, Élie. À midi, Élie se moqua d'eux et dit, « Criez à haute voix, puisqu'il est Dieu, il pense à quelque chose où il est occupé. » Peut-être qu'il est en voyage, c'est une de ses vacances. Hein? Peut-être qu'il dort, il va se réveiller. Voyez-vous? Élie, sans crainte, marche par la foi, se moque même des prophètes de Baal devant tout le peuple. Voyez-vous comment cet homme était rempli de foi. Il cria alors à haute voix, ils se firent selon leur coutume des incisions avec des épées et avec des lances, jusqu'à ce que le sang coulât sur eux. Hé, imaginez le spectacle que ça devait donner. Hein? C'était 850 hommes qui sont là, qui sont en train de se donner des coups de lance, se blesser. Baal, Baal, réponds-nous. C'est terrible. C'est terrible. Alors, Élie s'est mis à arroser son autel d'eau à de plusieurs reprises. Je vous ai dit tantôt que c'était le feu, hein, qui allait déterminer c'est qui le vrai Dieu. Quand que vous faites un feu, est-ce que vous mettez beaucoup, beaucoup d'eau là-dessus pour l'allumer? Est-ce que vous faites ça? Mettons, au camp, que vous avez été au camp, peu importe, là, est-ce que vous allez chercher plusieurs chaudières d'eau et vous l'enroser comme il faut avant de l'allumer? C'est spécial. Ouais, ben, toi, on met du gaz, hein? Mais il y met de l'eau. Mais il a mis à 20, oui. Tu comprends tout ça? Pourquoi tu fais une affaire de même? Il s'est trompé de canisse. S'il y en a qui comprennent canisse, ça veut dire quoi, bidon, hein? Il s'est trompé de canisse. Je ne penserais pas que c'est trompé de canisse. Je ne penserais pas. Il y enrose plusieurs reprises l'autel et toutes les pierres. Puis, il invoque l'Éternel. Toujours par la foi devant tout ce monde-là, toute la vamaisie qui ont crié. Hein? Quelle foi! Et le feu descendit du ciel. Il consume l'holocauste, le bois, les pierres et même l'eau à partir en fumée. Tout était consumé, la parole de Dieu nous dit. Chacun une photo là-dessus, j'ai mis la photo numéro 2. Imagine si ça devait être un petit peu de même. Ces gens-là devraient avoir eu vraiment une peur. Hein? Quand Élie dit, le feu arrive, bang! Imagine, ça devait être un coup de tonnerre. Puis ça a tout, pour consumer la pierre et toutes ces choses-là, le feu, ça devait pétiller. Les prophètes de Baal, pensez-vous qu'ils ont eu peur un peu? Le peuple, pensez-vous qu'il a eu peur un peu? Hein? Et, voyez-vous comment que notre Dieu est puissant? Comment qu'un homme qui a de la foi, il peut faire, si Dieu te demande une chose de le faire, on n'a aucune crainte à avoir. Aucune crainte à avoir. Le feu peut même descendre du ciel, si le Seigneur nous dit. Le peuple reconnaît l'Éternel comme le vrai Dieu. Et Élie fait exécuter des prophètes de Baal. Ces peuples, ils ont tous mis à mort. Autrement dit, ils ont enlevé le mal du milieu du peuple d'Israël dans une demi-journée à peu près. Hein? Après ce défi, il y prie pour que la pluie tombe. Et pensez-vous qu'il aimait pleuvoir? Élie, c'est marqué, c'était un homme comme nous autres. Un homme comme nous autres. Pas plus, pas moins. C'était un homme comme nous autres. et la sécheresse a été finie. Il s'est mis à pleuvoir. Dieu a béni l'obéissance. Il a obéi à la parole de Dieu. Il a fait ce que Dieu lui a demandé et Dieu a envoyé la pluie du ciel. Élie est heureux. Il est en haut des montagnes russes. Il est là. Il est vraiment heureux. Et ça ne finit pas là. Il s'est mis à courir devant le char d'Achab qui retournait en son château. Il a dit à Achab, vite à terre, puis vas-y. Puis vous savez, les rois, d'habitude, il y avait pas mal des meilleurs chevals, les meilleurs chariots, et puis ça roulait. Et ces autres qui avaient pas mal le meilleur dans le royaume. Et il courut à côté, devant Achab, il courut 27 kilomètres. Selon les commentaires, il aurait couru 27 kilomètres. Plus vite que couraient les chevaux du roi. Êtes-vous capable de courir plus vite qu'un cheval? Sur 27 kilomètres? Il n'y a rien d'impossible à Dieu. Élie court de joie. Il s'impose. Pour moi, il volait. Hein, il court de joie. Par la foi. C'est beau, hein? C'est beau jusque-là. Mais pensez-vous qu'il y a des hauts et des bas, des fois? Un roi, 19:2. Jézabel envoya un message à Élie. Un messager à Élie. Pour lui dire que les dieux me traitent dans toute leur rigueur. Pourtant, avait vu ces dieux, qu'est-ce qui venait d'arriver à ces dieux? Que les dieux me traitent dans toute leur rigueur. Si demain, à cette heure, je ne fais pas de ta vie ce que tu as fait à la vie de chacun d'eux. Voilà que le découragement d'Élie va commencer. C'est bas. Jézabel était avide de vengeance. Après la mort des prophètes de Baal, elle décide de faire mourir Élie. Elle dit, tu vas mourir pour avoir fait ça. Élie s'aperçoit que sa fidélité au Seigneur va lui causer des gros problèmes avec l'autorité. Là, je vais avoir des problèmes avec le gouvernement, autrement dit. Hein? Et c'est les autres, le gouvernement qui renaît. Fait qu'il dit, je vais avoir des problèmes avec le gouvernement. En as-tu peur d'avoir des problèmes avec le gouvernement? Ça ne vous arrive jamais, hein? Nous autres, on n'est pas de même. Mais il est comme ça. On pense que des fois, on est comme ça, nous autres, tout le monde. Comment va réagir la foi d'Élie? Élie n'était pas populaire aussi en tant que prophète. Il était vu comme un perturbateur en Israël, un gars qui sème le trouble. On pourrait lire ça dans 1 Roi 18, 17. Élie appelait le peuple à adorer Dieu, mais le peuple y allait vers d'autres dieux. Donc, il n'était pas bien vu. Il n'était pas bien vu. Élie vivait à contre-courant parmi un peuple qui avait courait et ne voulait pas obéir à l'Éternel. 1 Roi 19:4 nous dit, « Pour lui, pour Élie, il alla dans le désert, où après une journée de marche, il s'assit sous un genêt. Et, qu'est-ce qu'il fait? Il demande la mort. En disant, « C'est assez. » C'est assez. Maintenant, l'Éternel prend mon âme, car je ne suis pas meilleur que mes pères. Découragé, un burn-out. Si vous lisez certains commentaires, ils disent que c'était un burn-out. Découragé au bout. Même si Élie vient d'être témoin de la puissance de Dieu, il a vu ça, et ça, c'est des faux yeux. Il l'a montré en plus. La menace d'une femme lui fait peur. Cela lui a amené à enlever l'espoir que le plan de Dieu va fonctionner. Ça ne marchera pas. Les autorités, le gouvernement n'est pas avec ça, ça ne marchera pas. L'autorité n'est pas pour ça, fait que ça ne marchera pas le plan de Dieu. Il y a peur. On dirait qu'il y a peur que le gouvernement change les plans de Dieu. Ça vous arrive-tu d'avoir peur que le gouvernement change les plans de Dieu? Alors, il veut mourir. La Bible nous dit que celui qui est debout prenne garde de ne pas tomber. C'est un peu là-dessus que le Seigneur veut nous instruire aussi, chacun de nous. On est là, ça va bien, on a des victoires, ça va bien dans notre vie. Mais comme Satan dit à Jésus, à Dieu, il dit, touche un peu, touche à Job, touche un peu. Je te garantis que tu te maudis en pleine face. Satan, il veut qu'on ait des épreuves aussi. Oublions pas ça. Hein? Comment qu'on va réagir? En fait, Élie fut l'un des... Non. Même si Élie était d'être témoin de la puissance de Dieu, on voit que la menace d'une femme lui a fait peur. Il veut mourir. En fait, une chose qui est cocasse là-dessus, Élie est un homme, un des rares hommes de la Bible à ne jamais mourir. Il veut mourir, mais c'est un des rares hommes de la Bible à jamais mourir. Élie a été enlevé au ciel. Imagine quand, une fois qu'il était rendu au ciel, Dieu l'a enlevé. Je pense qu'il rit un peu. Je demandais la mort, puis je suis un des rares à ne pas mourir, moi, là. Je pense qu'il y avait un petit sourire, hein? Je pense qu'il y avait un petit sourire. Hein? Notons comment le Seigneur va s'y prendre pour aider Élie à se relever de sa chute. Ça, c'est important, retenons ça. Comment Dieu le relève à un homme de Dieu, ses enfants qui ont tombé? Comment il les relève? On ne lira pas toutes parce que c'est trop long. Il va lui donner de la nourriture. Vous pourrez voir ça, il le nourrit. Un ange est apparu, il a donné à manger pour physiquement, pour qu'il reprenne des forces. Et puis Dieu lui a parlé. Deux choses que Dieu sert. Il nous donne des forces physiques et il nous parle à notre cœur. 1 Roi 19, 9. Et là, il entra dans la caverne. Il passa la nuit. Et voici la parole de l'Éternel lui fut adressée en ces mots. Que fais-tu ici, Élie? Que fais-tu ici, Élie, dans cette caverne-là? Hein? Le Seigneur amène Élie à réfléchir à son problème. Il lui demande par deux fois, « Que fais-tu ici, Élie? » À demander même la mort. C'est sûr que Dieu savait pourquoi il était là. Hein? Élie se plaint. Là, il répond à Dieu. Il dit à Dieu qu'il lui a été fidèle. Et maintenant, il veut me tuer. « Monsieur Seigneur, j'ai été fidèle, puis regarde ce qui m'arrive dans ma vie. » Ça vous doit arriver de dire ça. Pourtant, je suis fidèle à Dieu, puis regarde ce qui m'arrive. Ça vous est arrivé? Élie est là, lui. Il est là. Il lui dit qu'il souffre et qu'il se sent tout seul. Hein? La peur amplifie toujours hein, les choses. Mais en réalité, Élie est en train de dire à Dieu qu'il était incrédule, qu'il avait peur, qu'il était concentré sur lui-même. Ils avaient enlevé les yeux de sur Dieu. A remarqué que c'est la peur de l'ennemi qui a fait trébucher Élie. Jézabel n'a jamais touché un seul cheveu d'Élie. C'est juste la peur. Hein? Puis il n'était pas tout seul non plus. Il dit, « Je suis tout seul. » Il n'était pas tout seul. Dieu s'était réservé 7000 personnes en Israël. Il n'était pas tout seul. Voyez-vous la peur, comment ça peut nous désorienter. Hein? La peur ouvre la porte au diable pour nous faire trébucher dans notre foi. Je le répète. La peur ouvre la porte au diable pour nous faire trébucher dans notre foi. Quand nous voyons du noir, il est essentiel que nous cessions de fixer notre attention sur nos propres capacités qui sont limitées. Tournons nos regards vers Jésus, qui par sa mort et sa résurrection a vaincu la puissance du mal. On sait toutes ces choses-là, hein? On sait tout ça. Dieu nous a démontré à la croix comment il nous aime, comment il nous aime. Gardons les yeux sur lui et ne laissons pas la peur entrer en nous. C'est souvent la peur qui nous décourage. Colossiens 3, c'est-à-dire 1 et 2. Vous relirez l'histoire d'Élie, vous allez voir que c'est la peur qui a fait tomber cet homme-là. Jézabel n'aurait jamais pu le toucher. Il y avait 850 prophètes à côté de lui, puis ils n'ont jamais été capables de mettre la main dessus. Il avait peur d'une femme qui lui a dit un petit mot. La peur nous fait faire bien des choses. Si donc vous êtes ressuscité avec Christ, cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Affectionnez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. Vous savez, dans la vie, il va nous arriver des moments où on va se sentir découragé. Ça va tout nous arriver. Il y a des moments que ça ne nous dira même plus de lire la Bible. Et non. Ça ne nous dira même plus de prier à vouloir aller au rassemblement de l'Église. Tu n'as plus le goût de lire la Bible. Tu n'as plus le goût de prier. Tu n'as plus le goût d'aller au rassemblement de l'Église. Pensez-y. Est-ce que ça vous aura déjà arrivé? Est-ce que ça vous aura déjà arrivé de perdre le goût de lire la Bible, de se réunir, de prier Dieu? Ça peut arriver. Ça peut tous nous arriver. Mais prenons garde de ne pas se laisser emprisonner par des circonstances négatives. On a toute tendance à être négatif. On a toute cette tendance-là. Pensez à ça. Réfléchir à ça là-dessus. On est là, on s'assied dans notre salon, ou peu importe à ta maman, on écoute les nouvelles. Avant d'écouter les nouvelles, ça allait bien. Mais après avoir écouté, il me semble que ça va mal. Ça va mal. Là, on commence à critiquer. Après le gouvernement, ou. Ma femme, ça m'arrive. Malheureusement, je tombe encore. On se décourage, on devient négatif. Des fois, ça va bien dans ta vie, tu es tout joyeux, il arrive quelqu'un chez vous, la personne est négative à plein. Tu jases avec la personne, quand elle part de chez vous, tu te sens écrasé. Ça va mal, hein? Ça va mal. Ça vous est arrivé? On est tellement porté. Il faut faire attention, hein? Il faut faire attention. Nos pensées deviennent, on dirait qu'on devient comme un gros nuage noir. Ça allait bien, on était au soleil, puis là, maintenant, après ces choses-là, on marche comme ça, quasiment qu'on marchait. Je t'ai mis une photo là-dessus. Hein? On est quasiment comme ça. Là, on s'en va, on va travailler, hein? Ça va pas bien. Ça va pas bien. Tu penses à ça, ça va pas bien. En se concentrant sur les choses d'en haut, comme on vient de lire, nous prenons de la hauteur. On s'élève au-dessus des nuages noirs. Notre vie devient plus illuminée. On devient plus joyeux. Le découragement peut me faire dire bien des affaires, vous savez. On peut dire, moi, ma famille, je n'ai pas une famille comme les autres. Elle n'est pas gentille, ma famille. Les autres, encore ça va bien partout. Et moi, ma famille, ben, elle n'est pas de même. Le découragement peut nous faire dire ça. Mais la pensée de Dieu, si j'élève mes pensées au-dessus des nuages, me fera dire merci Seigneur pour ma famille. Même si elle n'est pas parfaite, j'en ai une famille. Puis il y en a qui sont tout seuls dans leur petit coin. Ils sont tout seuls. Quand ma mère était au CHSLD, ça fait bien. On était une grosse famille, on sait sûr. On allait régulièrement la visiter, mais on remarquait que beaucoup de gens qui étaient là, pas de visite. Rare, à Noël, à Pâques, rare. On peut remercier Dieu, même si notre famille n'est pas parfaite, on peut remercier le Seigneur d'avoir une famille. Hein. Il y en a d'autres, des fois, le découragement, vous savez, le gros nuage noir, là, il peut nous faire dire, moi, ma maison, mon logement, n'est pas comme je voudrais. Non, c'est trop vieux, c'est trop petit, là, se mettre à critiquer. Là, tu écoutes une émission à la télévision, vous savez, ceux qui réparent les bâtiments, là, puis « Hey, je fais pas ça, moi, là! » Là, on se met à critiquer. « Je fais pas ça, moi! » Vous savez, c'est toujours de même que l'ennemi vient, hein, il te montre quelque chose que tu n'as pas, là, que tu n'as pas. Mais la pensée de Dieu me fera dire « Merci, Seigneur, parce que j'ai un endroit pour vivre, un endroit où c'est sécuritaire. » Beaucoup de gens n'ont pas ça. Beaucoup de gens n'ont pas ça. En Calfé-Pitou, en Corée du Nord, on va voir que c'est pas comme ici au Québec. On ne se lamente plus d'être au Québec. Ouais, oui, je suis content d'être au Québec. Hein. Le peuple d'Israël a passé 40 ans dans le désert à souffrir à cause de leur mauvaise mentalité. Hein. Ils étaient charnels. Ils ne marchaient pas selon la foi, ils marchaient selon la chair. 40 ans en tournant en rond dans ce gros désert-là. Hein. Ils auraient pu traverser, ça vaut combien de temps? En 11 jours. Il a tourné en rond pendant 40 ans. Puis Dieu dit, c'est écrit pour notre instruction. On peut tourner en rond pendant 40 ans dans notre vie chrétienne si on ne lève pas les yeux et on ne regarde pas Dieu. 40 ans de vie chrétienne, mais toujours à tourner en rond. Pas fait de progrès. Hein? Pas fait de progrès. Ceux-ci avaient perdu la pensée que Dieu les dirigeait vers la liberté. Ils avaient perdu cette pensée-là. Philippiens 4:8, le dernier verset. Au reste, frères, que tout ce qui est vrai, que tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. Souvent, les hauts et les bas de notre vie sont dus à nos mauvaises pensées. C'est pour ça qu'on a des hauts et des bas dans notre vie. Ce n'est pas nécessairement toujours des épreuves, mais ça se passe là. Elle nous entraîne à dire des mauvaises paroles ou à commettre des mauvaises actions. On doit lutter contre ces mauvaises pensées. Le Seigneur dit, garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Proverbe 4, 23. Hein? Quand nous pensons à quelque chose qui n'est pas vrai, qui nous décourage, cela, ça vient soit du monde ou du diable qui veut nous envoyer des faussetés. Ou ça peut venir aussi de notre cœur. La parole de Dieu nous dit qu'il est tortueux par-dessus toute chose. Ça peut nous venir de là. Si nous introduisons des mauvaises données dans un ordinateur, on va avoir des mauvais résultats. Êtes-vous d'accord? Quand je fais la comptabilité pour l'Église, entre autres, si je lui mets un montant qui n'est pas ce montant-là, si je lui mets un 1 000 $ de plus, pensez-vous que je fais la réunion des diacres, ils vont dire, Jean-Marc, ce n'est pas l'ordinateur qui a le problème. Tu as mis des mauvaises données. Donc, on met des mauvaises données dans un ordinateur, on n'a pas des bons résultats. Si nous introduisons le mensonge dans nos pensées, on va obtenir des résultats un peu comme Adam et Ève lorsqu'ils ont mangé les paroles du diable. Avant Adam et Ève, ça allait bien. Ils étaient dans le paradis terrestre et ça allait bien. Ils ont gopté ça. Et après, est-ce que leur vie était mieux? Voyez-vous comment il faut faire attention à nos pensées? Garde ton cœur plus que toute autre chose. Car de lui viennent les sources de la vie, Proverbe 4, 23. Il faut faire attention à ce qui rentre là. C'est terrible, ça se passe quasiment tout le temps là, nos problèmes, ils viennent de là. Pour avoir une meilleure maîtrise de soi dans les montagnes russes de la vie, nous devons demeurer concentrés sur le Seigneur. Ça, c'est très important. Prier sans cesse. Se nourrir de la vérité. Faire attention aux mensonges. Faire attention quand on écoute les nouvelles, les gens négatifs. Il faut faire attention. Rechercher des relations avec d'autres chrétiens. Partager notre foi. S'encourager mutuellement dans notre marche avec Dieu. C'est ainsi que notre vie prend un sens spirituel. Qu'on a un but dans la vie, puis notre but, ce n'est pas ici-bas. Parce que tout ce qui est ici, c'est juste passager. Notre but, on s'en va vers le Seigneur. Il ne faut pas jamais oublier ça. On s'en va vers le Seigneur. On veut glorifier son nom sur cette terre pendant qu'on est là. On ne veut pas marcher en rond pendant 40 ans. Hein? Que le Seigneur bénisse sa parole dans nos cœurs. Amen. Amen.